France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, je suis très heureux de vous faire, sinon découvrir, du moins mieux connaître, aujourd'hui un compositeur et un être singulier, très attachant, disparu voici 25 ans. Je dis découvrir ou mieux connaître car Niccolò Castiglioni n'encombre pas vraiment les programmes de concert de ce côté-ci des Alpes. Et attachant parce qu'on apprend très vite qu'il était considéré comme un compositeur non dogmatiquement assimilable à l'avant-garde post-Darmstadtienne, non engagé politiquement à gauche, catholique, éclectique dans ses goûts musicaux. Une telle indépendance appelle évidemment au minimum le respect et l'intérêt, intérêt qui croît au fur et à mesure que l'on tourne les pages de ses écrits, réunis sous la direction d'Angelo Orcali et de Laurent Fenérou, mon invité en sa compagnie. Je vous propose d'aller à la rencontre de Niccolò Castiglioni. Aldo Orvieto au piano, l'orchestre de Padoue et de Vénétie sous la direction de Marco Angius. C'était la fin de Fiori di Ghiaccio, le fleur de glace de Niccolò Castiglioni. Bonjour Laurent Fenérou.
Bonjour Philippe Antoni.
Vous êtes musicologue, on vous connaît comme responsable de beaucoup d'éditions d'écrits de compositeurs parmi lesquels Baracchet, Manzoni ou Luigi Nono. Et donc vous là, avec Angelo Orcali, vous avez présidé à l'édition de nombreux écrits et entretiens de ce compositeur italien donc méconnu, né en 1932 et mort en 1996. Le titre de l'ouvrage donc, qui vient de paraître aux éditions Edam Musicae, c'est Niccolò Castiglioni, un musicien en hiver, essai et entretien, 1956-1996. Peut-être un petit mot d'explication sur le titre, un musicien en hiver. Pourquoi ? Est-ce que c'est une référence à Schubert, au voyage d'hiver, qui effectivement est évoqué à un moment dans le livre ?
Oui, absolument. C'est une allusion à Schubert, à cette poétique de l'hiver, à cette poétique de la neige, de la glace, qui a beaucoup inspiré l'œuvre de Niccolò Castiglioni.
Compositeur donc né et mort à Milan, on va dire une formation, on va pas faire défiler ses biographies, c'est pas du tout l'objet de cet entretien, mais quand même donner quelques points de repère. formation, on va dire, assez classique, reconnue assez jeune finalement comme compositeur dans les années, enfin dans la deuxième partie des années 50, et puis peu à peu son langage va évoluer. Comment est-ce que justement dans ces années 50 il s'inscrivait, Castiglioni?
C'est vrai que sa trajectoire est tout à fait singulière parce qu'il part d'un socle commun dans l'Italie de cette période, qui est un socle néoclassique. Nombre de compositeurs italiens de l'après-guerre sont influencés par Igor Stravinsky et le type d'écriture musicale de Stravinsky. Et puis il découvre vers 1954 le dodécaphonisme par l'intermédiaire d'un des grands compositeurs italiens qui a irrigué aussi toute cette génération, qui est Luigi Dalla Piccola. Et très rapidement, il se distancie de l'orthodoxie sérielle telle qu'elle est pratiquée à Darmstadt, oui.
Suite à quoi? Suite à des lectures de livres, de partitions, de philosophie. On se rend compte très vite que c'est un compositeur extrêmement cultivé, qui est passionné à la fois pour l'histoire des idées, la philosophie, la religion.
Oui, il lisait dans le texte les écrits latins, les écrits allemands, les écrits anglais, les écrits français, à la fois de littérature, de philosophie et d'histoire des sciences. Je dirais que son approche même du sérialisme n'est pas orthodoxe, et que progressivement, c'est un musicien qui va faire le choix du son et des textures. Et ce choix, ce double choix, implique une distanciation avec le sérialisme. C'est quelqu'un qui va être très attentif, on l'a entendu là dans ce premier extrait, à des textures très aiguës, qui font sa signature à partir du début des années 1960.
Aiguë, transparente, limpide, quoi.
Ouais. Exactement, ouais, c'est l'image de la glace.
C'est ça, exactement.
Sans arrêt.
Le passage à Darmstadt, est-ce que ça a été une révélation, au contraire, une sorte de basculement? Il s'est dit, bon, finalement, c'est vraiment la direction vers laquelle je ne veux pas aller.
Non, c'est un passage obligé, je dirais, pour un jeune compositeur de ces années 50, donc il y va comme les autres. Il y entend des pièces qui l'inspirent beaucoup. Il a quand même travaillé aux côtés de Pierre Boulez. Pierre Boulez a dirigé une de ses premières œuvres, tandis que Castiglioni était lui-même au piano. C'était un excellent pianiste. Mais on ne peut pas dire qu'il ait adhéré à cette ultra-rationalisation du langage musical telle qu'elle était pratiquée à Darmstadt, et qu'il a privilégié très vite une lecture presque mystique de Webern et une lecture sonore, acoustique de l'œuvre de Debussy.
C'est C'était le 13 septembre 1958 à Darmstadt, la création par Niccolò Castiglioni de sa propre pièce Inizio di Movimento. Laurent Fenero, qu'est-ce qu'on peut dire à l'écoute de cette brève pièce pour piano? Est-ce qu'elle se situe dans le courant de son époque?
Oui, je pense qu'on pourrait dire ça. Ce qu'on perçoit tout de même déjà, c'est cette attirance pour le registre extrême, et l'extrême aigu, évidemment. Castiglioni disait lui-même qu'il avait trois types d'œuvres, qu'il avait des œuvres à caractère schoenbergien, donc des œuvres très sérielles, dodécaphoniques, rationalisées sur le plan des hauteurs, etc. Mmh. Qu'il avait des œuvres joyeuses, c'était son adjectif, des œuvres qui étaient d'obédience plus néoclassique et dans lesquelles il utilisait des accords parfaits en les dédouanant d'une logique harmonique traditionnelle. Et qu'il avait un troisième type qui était une musique transparente, glacée, hivernale, et dont on dit avec amusement qu'elle ignore la clé de fa.
Qu'elle reste vraiment, en général, au perché, on a bien compris. Laurent Fenero, dans cette réunion d'écrit et d'entretien, il y a... au centre, j'ai envie de dire, un livre qui était donc le langage musical de la Renaissance à aujourd'hui, qui date de 1959, donc contemporain de la pièce pour piano qu'on vient d'entendre à l'instant. Et on se rend compte que Niccolò Castiglioni a une réflexion très très ouverte et à la fois très savante sur l'histoire de la musique, mais vraiment très très libre de tout dogme.
Oui, ce qu'il faut d'abord signaler, c'est que c'est un livre qu'il écrit, qu'il publie à l'âge de 27 ans. C'est très jeune. C'est un livre qui témoigne d'une connaissance de l'histoire de la musique et du langage musical du Moyen-Âge à nos jours, impressionnante pour un jeune compositeur de l'époque. Le projet de Castiglioni est de prendre beaucoup de hauteur par rapport aux œuvres musicales et d'essayer de tracer une histoire du langage musical à travers différentes phases. Il y a la phase réaliste, qu'il appelle la phase réaliste, qui est la phase du Moyen-Âge. Il y a ensuite une phase de rationalisation, de première rationalisation qui correspond à l'âge classique, puis une phase d'idéalisme qui est celle du romantisme, et une phase de pragmatisme qui est la phase plus contemporaine. Et ce qu'il cherche à faire, c'est à définir chacune de ces phases au regard du langage musical et des principes du langage musical.
Mmh. Donc on comprend à travers ses écrits et puis également à travers sa musique que c'est pas du tout un compositeur de la table rase, mais au contraire qu'il cherche à récupérer certains éléments du passé, les agréger pour constituer son propre langage.
Oui, et puis il y a des caractéristiques tout à fait singulières parce que si on pense aux autres compositeurs sériels qui avaient un rapport à la tradition, en France ou en Italie, la position de Castiglioni est presque plus classique. C'est un homme qui va vers Haydn, qui va vers Mozart, vers Beethoven, vers Wagner évidemment. Donc il y a une connaissance de l'histoire de la musique qui débute au Moyen-Âge. Il s'intéresse à la modalité grégorienne, il s'intéresse au début de la polyphonie et qui court jusqu'à aujourd'hui.
Et qu'a-t-il fait, Laurent Fenero, Castiglioni, de cette connaissance de l'histoire de la musique, de cette façon de penser la musique à travers les âges qui évidemment a évolué en même temps que le vocabulaire? Est-ce que ça nourrit son travail de compositeur?
Alors je ne suis pas certain, c'est ça qui est tout à fait étonnant, c'est que il a l'image d'un compositeur candide, un peu naïf, soucieux de simplicité, voire de naïveté.
Oui. Il le revendique aussi quelque part.
Et il le revendique absolument, et il le revendique dans une position qui est une position pratiquement religieuse, puisque ces termes d'humilité ou de simplicité sont des termes franciscains, ou sont des termes qu'on trouve dans les écrits monastiques tout au long du Moyen-Âge. Et inversement, ces essais sont certes écrits dans un style relativement limpide, puisque je crois qu'il n'y a pas de sophistication particulière de la langue, mais en même temps, ce sont des textes très savants qui abordent un grand nombre de problématiques. Thank you.
Le miroir de musique sous la direction de Baptiste Romain, interprété au Virgo Miserere Mei de Johannes Tinctoris, compositeur du XVe siècle, auquel s'est intéressé Niccolo Castiglioni, notamment un de ses écrits, puisque Tinctoris est un des grands théoriciens de la musique, on va dire. Il s'est penché sur son Complexus Effectuum Musices, la liste des effets de la musique. Laurent Fénéraud, il y a également d'autres textes, donc en dehors de ce pavé, j'ai envie de dire, sur le langage musical de la Renaissance à aujourd'hui, de nombreux articles, textes consacrés à Monteverdi, à la naissance de l'opéra en Italie, enfin des textes absolument passionnants. J'invite tous nos auditeurs à les lire, c'est vraiment très très enrichissant sur Brahms, sur Wagner. On l'a dit tout à l'heure, on a évoqué aussi sa culture littéraire, il était passionné par, je crois, enfin, les romantiques allemands aussi, mais aussi la Renaissance.
Oui, et par les grands auteurs du Moyen-Âge. Mmh. On trouve souvent sous sa plume les noms de Saint Bonaventure, Saint Anselme, Saint Benoît. Enfin,
Oui. Donc c'était vraiment un esprit éclairé. On a l'impression parfois, par son profil intellectuel, on pense à ces grands lettrés de la Renaissance.
Oui, c'était un humaniste. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans ces textes, c'est que c'est un homme qui cherche tout le temps les moments de jonction de l'histoire de la musique, les moments de bascule de l'histoire de la musique. Et donc, il observe à chaque fois comment un compositeur ou un théoricien hérite d'un passé musical ou théorique et le transforme pour donner naissance à une autre configuration du langage musical. Et donc, évidemment, la Renaissance est pour lui un des points de bascule essentiels. C'est la base de notre modernité.
Bien sûr.
Mais il étudie aussi, par exemple, le passage de l'âge classique à l'âge romantique. Il le fait à travers les lettres de Haydn ou il le fait à travers les premières compositions de Beethoven. Et à chaque fois, il regarde comment le langage est un langage de l'époque, pleinement ancré dans l'époque, et comment, par un petit détail, il mute et il ouvre une perspective nouvelle. Par exemple, tout simplement, dans une sonate pour piano de Beethoven, comment le piano ne désigne pas un timbre de piano comme un clavecin pouvait désigner un timbre de clavecin, mais fait signe vers un corps, et donc idéalise un timbre de corps à travers le piano et ouvre dans cette perspective-là la veine romantique.
Mmh. Et puis aussi le texte consacré aux sonates de Mozart, sonate pour piano, où il évoque la carrure, les carrures irrégulières, les choses comme ça, oui, qui entraînent l'évolution du langage vers le romantisme.
Oui, et puis pour prendre un autre exemple, un dernier exemple, il y a l'exemple de Debussy qu'il traite comme un retour au son, retourner au son. C'est-à-dire que il prend l'exemple très anciens de Pythagore passant à côté de ces forgerons qui font du bruit avec leurs enclumes et en déduisant les proportions qui vont générer les intervalles de l'octave, de la quinte, etc. Et il dit, avec Debussy, on abandonne les proportions et on retourne au son de l'enclume. On retourne au son en soi et non pas dans une dialectique ou dans des proportions qui ont été déduites rationnellement par Pythagore et puis par le langage, jusqu'au langage classique en fait.
Theresia Bokor, Signe Bungart, soprano, le Danish National Concert Choir, l'Orchestre Symphonique National du Danemark, tous sous la direction de John Andrea Nocetta. C'était le début du psaume 19 de Niccolo Castiglioni, une pièce, une œuvre de 1980. Laurent Fénéroux, un ou deux éléments biographiques concernant donc ce compositeur italien. Il est parti aux États-Unis à la fin des années 60 pour enseigner. Il revient en Italie en 70, au tout début des années 70. Et là, je crois que la vie est un peu compliquée pour lui. Il compose quasiment pas pendant quelques années.
Il compose très peu. Il y a deux pièces en l'espace de 5 ans. Ouais. C'est un homme très sensible. Donc la perte de sa mère entraîne un épisode clairement dépressif. Le voyage aux États-Unis pendant 4 ans l'a coupé littéralement des pratiques musicales européennes, à un moment où l'avant-garde de Darmstadt est en train de s'effondrer. Donc il n'assiste pas à sa mort, mais il entérine la mort de cette avant-garde depuis les États-Unis. Il dira d'ailleurs, l'avant-garde musicale est morte, on va pouvoir recommencer à faire de la musique.
Ouais, c'est, en dénonçant le fanatisme, il écrit ça quelque part dans son autobiographie qui est à la fin du livre. Ouais. Et Laurent Fénéreau, alors aujourd'hui, qu'en est-il de la musique de Niccolo Castiglioni, qui est, je l'ai dit en introduction, assez peu joué. Je parlais de ce côté-ci des Alpes, mais je crois que de l'autre côté, c'est pas mieux.
C'est à peu près pareil. C'est un musicien très peu joué. Il n'y a pas d'édition italienne de ses écrits. Il n'y a pas d'édition dans d'autres langues de ses écrits réunis. En France, l'instant donné le joue de façon parcimonieuse, mais remarquablement. Et puis, il y a l'ensemble suisse Contrechamp, qu'il a beaucoup joué à un moment, qui lui a commandé des partitions. Et Castiglioni avait très peu de commandes. C'était un compositeur qui écrivait pour lui-même, sans qu'on lui passe pratiquement la moindre commande.
Ah oui. Et le personnage avait l'air d'un abord un peu difficile, quoi. Il y a des témoignages, on me dit, il pouvait rester comme ça, on était à côté de lui, puis il restait muré dans son silence pendant des minutes et des minutes.
C'est ça, c'était un rêveur, un fantasque, un esprit relativement enfantin, un homme qui regardait un papier à musique vierge pendant des minutes, de longues minutes, qui était capable de répéter de façon obsessionnelle les mêmes traits de piano. C'était un homme de la rêverie.
Un grand contemplatif, ici, qui aimait quitter Milan pour aller marcher dans la montagne, dans les montagnes du Haut-Adige, c'est ça ?
Exactement. Il y trouvait la solitude, il y trouvait le chemin, il y trouvait cette glace qui le fascinait tant.
La contemplation de la nature aussi, évidemment, des grands espaces.
Exactement, la contemplation de la nature et à travers la nature, la contemplation de Dieu, puisque comme vous l'avez rappelé, c'était un homme catholique et un fervent catholique.
Est-ce que justement, pour terminer, Laurent Fénéreau, est-ce que son catholicisme, est-ce que sa foi a irrigué sa musique? Est-ce qu'elle est palpable dans l'essentiel de son œuvre?
Oui, ouais. Elle est très présente, elle est présente dans le choix des textes, des psaumes, des textes d'Angelus Silesius des poèmes à portée théologique extrêmement profonde, et la manière dont lui-même traite ces textes bibliques ou ces textes théologiques est une manière érudite, c'est-à-dire qu'il sait exactement sur quel mot il faut insister dans tel ou tel texte, la manière de le figurer musicalement, l'affect que ce mot doit porter d'un point de vue religieux. Oui, sa foi est omniprésente.
Très bien, merci beaucoup Laurent Fénéreau. Je rappelle le livre que vous avez co-dirigé avec Angelo Orcali, Niccolo Castiglioni, un musicien en hiver, essai et entretien 1956-1996, paru aux éditions Edam Musicae, un compositeur et un être humain absolument attachant à découvrir. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, la technique Cédric Chatelus, attaché de production Annick Aumier. La semaine prochaine, nous terminerons la saison d'un pas léger et alerte, puisque nous irons de l'autre côté de l'Atlantique pour découvrir la comédie musicale, le musical hollywoodien, en compagnie de N.T. Bean. D'ici là, excellente journée, excellente semaine, à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.